Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Politique au Bénin, le président béninois Patrice Talon a ouvert à Cotonou ce jeudi un dialogue politique destiné à sortir le pays de la crise qui le secoue depuis les élections législatives d'avril. Mais la réunion a commencé en l'absence de plusieurs poids lourds de l'opposition, notamment Sébastien Ajavon, le patron de l'Union sociale libérale qui vit en exil en France, et Candide Azanaï, l'ancien ministre de la Défense, leader de la formation Restaurer l'Espoir. Les tensions actuelles au Bénin découle des élections législatives du 28 avril, auxquelles l'opposition n'a pas participé pour la première fois en 30 ans. De nombreux partis n'ayant pas rempli les conditions légales adoptées récemment par le Parlement pour faire campagne politique. D'où le fait que ces formations n'ont même pas été conviées au dialogue qui doit durer 3 jours. En signe de protestation, l'opposition organise en parallèle un contre-dialogue à Cotonou, baptisé les Assises de la Résistance et présidé par l'ancien chef de l'État, Nicéphore Soglo. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant, l'otage américain Jeffrey Woodke, enlevé en octobre 2016 au Niger, est en vie et en bonne santé. C'est ce qu'a assuré le président nigérien Mahamadou Issoufou dans une interview à la chaîne de télévision américaine ABC. Le point avec Lionel Gaïma.
L'information que nous avons, c'est qu'il est en vie et en bonne santé. Et nous allons continuer à tout faire pour créer les conditions de sa libération, affirme le président nigérien dans cette interview réalisée en septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. En juin 2018, le président Mahamadou Issoufou avait déjà déclaré que M. Woodke ainsi que l'otage allemand Jörg Lang étaient toujours en vie. Woodke a été enlevé en octobre 2016 à son domicile à Abalak dans la région de Taoua. Un soldat nigérien et un gardien civil ont été tués pendant le kidnapping. Le 4 octobre 2017, 4 soldats américains et 5 militaires nigériens ont été tués par des djihadistes près de Tongo-Tongo, non loin de la frontière avec le Mali. Cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique dans le Grand Sahara. Le Pentagone avait expliqué que le but de l'opération était de capturer un chef djihadiste soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement de Jeffrey Woodke.
République démocratique du Congo, le sida et la rougeole menacent également la RDC, alors que l'épidémie d'Ebola dans les UPI y monopolise l'attention depuis 14 mois. Médecins sans frontières, MSF et l'UNICEF, l'Agence de l'ONU pour la protection de l'enfance, tirent la sonnette d'alarme. Le point avec Eddie Sango.
Ebola a tué en plus d'un an plus de 2100 personnes dans le Nord Kivu. Cette épidémie est plus médiatisée. Pourtant, 17 000 personnes sont mortes des maladies liées au sida en 2018 en RDC où 450 000 personnes, d'après l'ONU Sida, vivent avec les VIH. Le taux de prévalence des 0,8% est bien plus faible que dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. Médecins sans frontières demandent un financement ambitieux pour enrayer l'épidémie, estimant qu'à peine 57,7% des personnes infectés ont accès à un traitement. Par ailleurs, l'UNICEF souligne que 4000 personnes ont succombé à l'épidémie de rougeole depuis janvier 2019 sur plus de 200 000 cas. Les enfants de moins de 5 ans représentent 74% des infections. L'UNICEF a vacciné plus de 1,4 million d'enfants. La RDC lance à partir du 22 octobre une campagne de vaccination contre la rougeole dans chacune des 26 provinces.
Afrique du Sud, au Cap, des dizaines d'étrangers campent depuis mercredi devant les locaux du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR, en demandant à quitter le pays où ils ne s'estiment plus en sécurité. Environ 250 personnes, parmi lesquelles de nombreux demandeurs d'asile disant être originaires de divers pays africains, promettent de ne pas quitter les lieux tant que le HCR n'aura pas réglé leur situation. Rappelons qu'une vague d'émeutes xénophobes a affecté plusieurs villes sud-africaines en septembre. Ces troubles ont causé la mort d'au moins 12 victimes, dont une majorité de sud-africains, et aussi de vives tensions entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, les deux principales puissances économiques du continent africain.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique du Nord maintenant, en Tunisie, le candidat à la présidentielle Nabil Kaouri a été libéré à 4 jours du second tour, au moment où les résultats officiels confirme une victoire du parti islamiste Ennahda aux législatives. Cette formation religieuse sera donc chargée de former le gouvernement, une tâche compliquée vu le morcellement du Parlement. Le point avec Jean-Roger Bion.
Ennahda a obtenu 52 sièges sur les 217 que compte l'Assemblée. Des vainqueurs de la Tunisie, la formation dirigée par l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui comptera 38 députés. Ces chiffres sont conformes au sondage sorti des urnes publiées dimanche dans la foulée du scrutin qui laissait entrevoir un Parlement morcelé. Ennahda reste le principal parti du Parlement, mais au regard de la fragmentation des forces, il lui sera difficile de trouver un partenaire de poids pour former une coalition gouvernementale nécessitant 109 voix. La justice tunisienne a par ailleurs ordonné dans la journée la libération de Nabil Karoui, incarcéré depuis le 23 août dernier. La Cour de cassation a décidé mercredi de libérer M. Karoui, qui reste toutefois inculpé de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. M. Karoui avait récolté 15,58% des voix au premier tour de la présidentielle derrière le juriste Kais Saied, 18,4%. Il lui reste 2 jours pour faire campagne, durant lesquels il est invité à participer à un débat télévisé inédit avec son adversaire vendredi soir.
En Algérie voisine, l'armée a appelé mercredi à la mobilisation pour la prochaine élection présidentielle visant à choisir un successeur au chef d'État démissionnaire Abdelaziz Bouteflika. Les précisions avec Irénée Herman Ungo.
Le général Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et l'homme fort du pays, veut la tenue d'une présidentielle le 12 décembre. Il avait déjà mis en garde contre toute entrave à la présidentielle. Dans sa revue officielle El Jaïch, l'armée demande aux Algériens de se mobiliser pour l'intérêt supérieur du pays afin de choisir un président légitime. Le mouvement de contestation qui agite le pays depuis plusieurs mois rejette cette élection, estimant qu'elle ne vise qu'à assurer la survie du système. Les manifestants exigent avant toute élection le départ du pouvoir de toutes les figures de l'ancien régime, dont Noureddine Bedoui, devenu Premier ministre. La présidentielle prévue en juillet dernier a été annulée faute de candidats. Lundi, des ONG de défense des droits humains ont dénoncé la multiplication des poursuites judiciaires contre des journalistes et des manifestants pour de simples publications sur les réseaux sociaux.
Proche-Orient, la Turquie a lancé une offensive dans le nord-est de la Syrie contre une milice kurde soutenue par les Occidentaux dans la lutte contre les djihadistes dans la région. Ankara veut profiter du retrait américain pour se débarrasser des Kurdes installés le long de ses frontières. Côté syrien, Bagassi Koura a joint à Paris Ahmet İnsel, ancien professeur à l'université Galatasaray en Turquie.
Pour la Turquie, l'installation au nord de la frontière syrienne, tout au long de la frontière turque, des entités politiques kurdes contrôlées par les forces de YPG et des forces démocratiques syriennes, des forces kurdes syriennes, constitue, selon l'État turc, une menace pour sa sécurité nationale parce que il considère que les entités kurdes au nord de la Syrie sont contrôlées par une organisation militaire, une organisation qui mène un combat de guérilla contre la Turquie depuis une quarantaine d'années. Donc aujourd'hui, ils interviennent la troisième fois, cette fois-ci dans une zone qui est de l'ordre de 100 km de long au long de la frontière et ils ont commencé à bombarder les deux villes de Tel Abyad et de Resulayn, les deux villes frontalières syriennes, et probablement les forces terrestres vont commencer à avancer dans cette région-là.
Alors, avec le retrait des troupes américaines, de quelles forces disposent les Kurdes pour se défendre?
Les forces démocratiques syriennes et d'autres aussi groupes ethniques syriens, mais majorité kurde, disposeraient de l'ordre de 25 à 30 000 combattants dans la région et qui sont pas mal armés avec des armements lourds par les Américains. Mais ce qu'ils ne disposent pas, évidemment, c'est la couverture aérienne.
Quels sont les risques d'une telle guerre?
Nous ne savons pas comment vont réagir les Kurdes et nous ne savons pas jusqu'à quelle profondeur les militaires américains se sont retirés. Et deuxièmement, nous ne savons pas la capacité réelle de résistance des Kurdes dans cette région. Il est fort probable qu'ils résistent plus dans cette région-là parce qu'ils n'ont plus d'autre endroit à aller.
Ahmet İnsel, un spécialiste de la Turquie. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.